Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu, je suis Antoine Mongeon. Et je suis ravi de vous retrouver encore cette semaine avec un enregistrement un peu tardif, donc l'épisode arrivera sûrement en fin de semaine pour sur vos plateformes de podcast, donc vous allez m'écouter un petit peu tard, mais c'est pas grave, donc toujours un peu en mode vacances, le rythme est un peu saccadé, mais on arrive toujours à tenir l'épisode hebdomadaire du podcast, donc je suis vraiment ravi de vous retrouver, et pour ne pas oublier les bonnes pratiques, n'oubliez pas d'aller surtout noter le podcast 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, partout où vous pouvez noter, mettre 5 étoiles, mettre un petit commentaire, ça donne beaucoup de visibilité au podcast, ça aide vraiment le podcast à être découvert par plein de gens, donc la communauté grossit petit à petit, je suis super content, donc voilà, j'espère que vous pourrez partager ce podcast à un maximum de personnes autour de vous et noter surtout, ça donne vraiment de la visibilité pour le podcast et ça aidera sûrement d'autres développeurs de jeux indés. Et voilà, c'est vrai que je n'ai pas trop rappelé le but de ce podcast, hein, les coulisses du jeu, c'est vraiment orienté sur l'aspect business, développement du jeu vidéo, on ne traite pas trop des sorties de jeu, mais voilà, on parle plus de ce qui se passe, par exemple là, première news, je commence un peu en enchaînant, mais par exemple que CD Projekt Red va supprimer 100 emplois, apparemment ils étaient devenus trop gros, trop nombreux à travailler au sein de la société CD Projekt Red. Pour rappel, CD Projekt Red, c'est les créateurs de The Witcher, Cyberpunk, aussi c'est la maison mère de GOG.com, donc la plateforme où vous pouvez acheter des jeux dématérialisés, et un peu l'équivalent de Steam, mais qui est plutôt bien, et puis surtout la particularité de GOG.com, c'est de proposer des jeux sans DRM, donc sans protection, vous pouvez très bien les acheter, les télécharger, les partager à un copain, il peut jouer, etc. Mais la plateforme est plutôt ouverte, plutôt bien faite, et voilà, CD Projekt Red, mine de rien, a connu un bel essor, a bien fonctionné avec leur grosse licence, hein, qui était The Witcher, qui était inspiré d'un roman, et après ils ont sorti Witcher 1, Witcher 2, Witcher 3, des extensions avec pas mal de projets, de gros projets, des moyens projets aussi, hein, là je citais Cyberpunk, mais il y a aussi Cyberpunk qui était décalé et qui est sorti dans un état catastrophique sur les consoles de génération PlayStation 4, Xbox One je crois, et c'est ça, PS4, et qui a fait un peu une tollée sur la sortie d'une génération un peu, le jeu a été un peu mal optimisé, à tel point que même Sony avait dû enlever le jeu, ils ont fait procéder à un remboursement massif, hein, du jamais vu, quoi, que même Sony avait laissé passer la sortie d'un jeu avec une telle piètre qualité qui était complètement injouable sur certaines consoles. Et donc ils sont revenus dessus, ils ont pas mal patché, updaté, etc. Ils ont un peu rectifié le tir, mais mine de rien, ils étaient devenus tellement gros que certaines décisions, certaines façons de fonctionner, je pense, de la société ne correspondaient plus trop à ce qu'ils faisaient. Donc du coup, ils cherchent à réduire la quantité de personnes travaillant au sein de la société et pour devenir un peu plus agile et de livrer des jeux de plus qualitatifs. Donc ça peut paraître bizarre comme ça, alors sans faire l'avocat du diable, il y a sûrement un peu de vrai, parce que pour avoir un peu vécu ça en interne sur des grosses équipes de développement, des fois il y a des discussions qui vont tourner pendant des semaines, voire des mois, voire des années, parce que toutes les personnes qui te sont impliquées dans ces décisions, dans ces positions, doivent être informées, leur avis doit être tenu, forcément doit être pris en compte, donc s'il y a des avis contradictoires, comment on les gère, donc ça repart dans des discussions, dans des réunions, et puis après s'il y a par exemple la décision qui est prise par l'équipe créative impacte l'équipe marketing, il faut du coup consulter l'équipe marketing qui doit changer tout son plan et sa stratégie marketing, par exemple si c'est une feature un peu critique sur laquelle ils voulaient communiquer et mettre un peu en avant la sortie du jeu, et finalement on décide de pas sortir cette version là, cette feature là, donc il faut que ça impacte énormément le marketing, et puis derrière peut-être qu'il y a des équipes techniques, si c'est un jeu connecté online, qui aussi a commencé à développer cette feature et cette fonctionnalité, qui finalement doit le laisser de côté pour passer sur autre chose. C'est tout un système hyper imbriqué, plus on rajoute de gens, ça rajoute pas juste une personne en plus à gérer, c'est un facteur multiplicateur indicateur peut-être exponentiel, on se doute pas, et souvent c'est pas forcément la bonne équation de dire on va être 200, 300, 400 à travailler sur un jeu pour aller plus vite. Et non, en fait, je prends souvent, quand on parle de gestion de projet, l'exemple de la femme enceinte, hein. Donc, si vous avez une femme qui est enceinte, c'est pas parce que vous allez avoir 9 femmes enceintes que vous allez avoir un bébé en un mois. Donc, non, c'est juste, il y a des choses qui prennent du temps. Donc, ça prend 9 mois en moyenne. Donc, voilà, c'est pareil pour un jeu. Il y a des choses qui sont, il y a des temps un peu incompressibles, et c'est pas en rajoutant plus de monde qu'on va réussir à le faire. Donc, c'est vrai que c'est un peu triste pour les gens qui perdent leur emploi chez CD Projekt Red. Après, j'imagine que ils vont être, enfin, c'est ce qu'ils communiquent en tout cas, qu'ils veulent que les équipes reçoivent quand même une compensation de départ avec, voilà, ils le laissent pas partir comme ça, ils vont essayer de les aider à être embauchés dans d'autres sociétés, etc. Et bon, ça fait quand même pas la première fois qu'ils se séparent du monde. Donc, il y avait déjà en début 2023, ils avaient déjà fait un licenciement un peu, voilà, un peu. Pas massif, mais il y a eu quelques dizaines de personnes, quoi, qui ont été remerciées. Là, c'est une centaine d'employés, donc d'ici jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça va faire quand même pas mal de monde. Et puis, Gwent aussi, les jeux un peu free-to-play qui avaient été faits par CD Projekt Red, qui sont un peu laissés tomber parce qu'ils arrêtent complètement le développement. Hein. Gwent, c'était un peu une sorte de Hearthstone, une sorte de jeu de cartes online. Bon, ils voulaient surfer un peu sur la licence The Witcher, hein, qui fonctionnait bien. Et ça avait aussi été laissé de côté par CD Projekt. Donc voilà, commence par toujours ces news un peu de licenciement de studios qui ferment, de projets qui sont annulés, etc. Donc c'est pas forcément très positif, mais c'est pour continuer sur des choses un peu plus positives qui vont par exemple être le festival de jeux vidéo de la BPI. Alors BPI, c'est pas la banque publique d'investissement que beaucoup de start-upers connaissent, mais c'est plutôt la bibliothèque publique d'information du centre Pompidou à Paris. Donc, je pense que c'est à Paris. Hein. De toute façon, quand ils ne le précisent pas, c'est forcément à Paris sur les news, c'est sur la FJV. Donc, il y a la 11e édition qui arrive du 27 septembre 2 octobre 2023, la bibliothèque publique donc, d'information du centre Pompidou. Et donc, il y a un petit programme là, qui a l'air assez sympa. Donc, ça démarre à 14h avec un forum du jeu vidéo à travers des tables rondes avec des anciens sportifs, des coachs, des directeurs de formation, des acteurs. Beaucoup autour de la scène e-sport pour discuter un peu de l'impact de l'e-sport. Après, il y avait un enregistrement en direct aussi du podcast Fin du Game, qui est un excellent podcast justement sur un jeu ou des séries de jeux, etc. Je l'écoute assez régulièrement, donc qui démarre à 19h, et une démonstration de speedrun par Germou qui démarre à 19h aussi. Mais par contre, c'est le 2 octobre. Les deux autres événements, c'est le 30 septembre. Donc, c'est sur plusieurs jours, hein, du 27 septembre au 2 octobre. Si vous êtes par le coin là-bas, allez faire un petit tour. Donc c'est un forum de jeux vidéo de professionnels, voilà, du secteur, et puis voilà, donc ça peut être intéressant si vous avez envie d'y aller. Je vous mettrai les liens, les informations, les liens de l'événement en note de l'émission. Alors, news suivante, c'est une petite news que j'ai vue sur GameIndustry.biz qui nous parle un peu de comment faire un business un peu rentable dans l'industrie du jeu. Donc c'est comment, en fait, quand on dit rentable ou durable, c'est pas forcément être dans une logique peut-être classique des startups où on va aller très très vite, il faut tout exploser, etc. Mais c'est plutôt là, c'est prendre le pari que on va faire des choses qui vont tenir dans la durée, dans la longueur, avec par exemple les conseils qu'ils donnent, c'est par exemple en fait la durabilité d'une société, d'un studio de jeux vidéo dans son entendement, dans son explication. C'est pas uniquement sur l'aspect économique, c'est aussi l'aspect social. Donc ça, d'avoir des équipes qui sont là pendant longtemps, d'avoir bien traité ses équipes, d'avoir des décisions stratégiques pour que la société puisse tenir. Et en fait, il y a trois piliers sur la durabilité, hein, parce que c'est un article écrit par la fondatrice de Years Truly, M.J. Widomska, donc j'espère que je le prononce bien. Et donc il y a trois piliers, c'est la politique économique, la société et l'impact environnemental. Donc c'est vraiment les trois piliers autour de elle traite sur cet article, sur comment faire en sorte que une société de jeux vidéo, j'imagine que là elle parle de jeux, enfin ça peut être porté là, elle parle de jeux vidéo, mais ça peut on peut appliquer ça à d'autres types d'industries, hein, des industries Tech ou d'autres sociétés peuvent aussi s'inspirer de ce qu'elle raconte dans cet article, d'avoir une économie durable, d'avoir d'être plus, de pas être toujours, enfin être sur des levées de fonds, d'avoir une d'être sécurisé financièrement pour avoir une vision à long terme. Il faut saisir les opportunités de croissance, adopter une approche de croissance mesurée, pas d'aller sur l'hypercroissance, parce que souvent on entend parler quand on a des levées de fonds, des VC, certains cherchent de l'hypercroissance, voilà, comment on va faire la prochaine licorne en un temps record. Mais c'est pas du tout là, dans sa philosophie-là, et c'est quelque chose qui me parle un peu, parce que moi aussi j'ai un peu revenu de ce côté un peu hypercroissance, etc., qui peuvent être des fois positif ou négatif, parce que qui dit hypercroissance, c'est aussi recruter des gens rapidement, donc on n'a pas le temps d'instaurer une sorte de culture d'entreprise, donc les nouvelles personnes qui arrivent, tout le monde vient un peu de profils d'horizons différents qui adhèrent pas forcément à la culture, donc on se retrouve des fois à gérer pendant des heures des conflits entre les gens, etc. Alors que si on a plutôt une croissance un peu durable et mesurée, ça permet d'absorber à chaque personne qui arrive, d'avoir vraiment le temps de prendre le temps avec la personne, de l'onboarder correctement, de lui voilà, inculquer toutes les valeurs de la société, de voir si du coup ça match ou pas, de vraiment prendre le temps et pas être dans une course au recrutement, course au profit, course. C'est vraiment quelque chose d'un peu à contre-pied de ce que certaines levées de fonds d'investisseurs voudraient, quoi. Il y a un impact aussi sociétal positif, forcément si on fait une entreprise durable, il y a un impact sur l'environnement, hein, sur par exemple les employés qui peuvent vraiment se projeter, déménager, faire vivre aussi tout ce qui est un peu autour de la société, de l'endroit où elle se trouve. Et aussi, on revient toujours à cette culture d'entreprise qui peut être beaucoup plus facilement ancrée et développée et partagée avec plus de monde. Alors que si un gros turnover ou des grosses arrivées, c'est beaucoup plus dur, quoi. D'avoir un peu plus de diversité aussi dans les équipes, avoir bon, plein de bons conseils. Allez, je détaille pas plus ici l'article, mais c'est quand même super intéressant. C'est un sujet, voilà, sur lequel ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est vraiment des choses qui sont pas très répandues, ou c'est quelque chose de nouveau, où on retrouve pas forcément. C'est sortir un peu de toutes ces modes de levée de fonds, de financement rapide, de hypercroissance, on recrute à mort. J'ai vu tellement de sociétés, de personnes se cramer à faire ça. C'est toujours mieux si on arrive à avoir quelque chose de plus durable, et pour l'économie, et pour la société, et pour l'environnement aussi. Ça évite de polluer autrement que par des déchets plastiques, mais il va y avoir plein d'autres types de pollution environnementale qui pourraient être beaucoup plus bénéfiques, hein, à faire des choses plus durables et plus mesurées. Donc voilà, super article sur Game Industry, donc je mettrai le lien en note de l'émission si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà. Autre petit article, alors vraiment super super intéressant, parce que ça me parle un peu aussi, parce que c'est quelque chose que j'essaie de faire en ce moment. Et du coup, en creusant un peu, en cherchant un petit peu, je suis tombé sur une newsletter une excellente newsletter, qui s'appelle GameDiscover.co. Je l'ai souvent évoqué dans les podcasts. En gros, c'est l'article ici. On donne des conseils sur comment approcher et parler à des youtubeurs, à des streamers, et comment les devs de jeux indés doivent les aborder. Pas faire ça n'importe comment, pas dire à moins de les connaître personnellement ou de les suivre et qui vous suivent, ou voilà, qui a déjà vous êtes peut-être pas déjà partie de l'écosystème. Peut-être que tout ça vous, voilà, ça s'applique pas à vous, mais si vous êtes comme moi, je suis pas du tout dans l'écosystème influenceur ou streamer, ou voilà, j'ai essayé de faire un peu des streams, mais avec je suis pas du tout l'étoffe d'un streamer ou des gens qui sont hyper voilà, hyper connus, ils sont hyper à l'aise et tout. Moi, le podcast, ça me va très bien et je m'éclate, mais faire du stream et tout, j'arrive toujours pas trop à accrocher. Je pense que je comprends pas encore vraiment les codes exacts de comment aborder la partie stream, vidéo, etc. Mais ce qui est intéressant ici dans cet article, c'est justement comment, en tant que développeur, parce que c'est finalement ce qu'on fait, c'est développer des jeux en tant qu'indé, comment on aborde justement cette relation avec les youtubeurs, twitchers, parce que eux, ils sont bombardés aussi de requêtes, hein, les plus connus, et les mêmes les moyens, ou même les petits, je veux dire, ils sont complètement bombardés de demandes. Ah, tiens, tu veux pas streamer mon jeu? Ah, tiens, tu veux pas mon streamer mon jeu? Tiens, j'ai fait une update, tu veux pas streamer cette update avec cette nouvelle feature super cool que j'ai fait sur mon jeu? Et ça va les saouler. Surtout, s'il y a pas, il y a la moitié des infos dans les emails, ou si on les contacte sur Twitter, Insta, ou n'importe quel réseau, alors qu'en fait, eux, Ils ont 50 milliards de notifications. Alors, déjà, à mon échelle, je n'ai pas tant que ça, mais des fois, je passe à la trappe certains messages que je reçois sur les réseaux sociaux juste parce que je ne regarde pas, parce qu'il y a, il y a des gens qui vont liker, retweeter. Et en plus, le système de notification sur Twitter et tout sont un peu mal fichus. Donc, je ne suis pas H24 connecté. Alors que les emails, c'est vraiment quelque chose que je regarde souvent et c'est un des conseils qu'ils donnent. Hein, donc, comment contacter déjà ces personnes, les youtubeurs, influenceurs, etc., c'est par email. Donc, éviter les réseaux sociaux, envoyer un email, essayer de trouver l'email, le contacter direct. Et voilà, il faut vraiment comprendre aussi qui vous contactez. N'allez pas, par exemple, contacter un streamer de jeux d'horreur si votre jeu, c'est un jeu de poney. Donc, il va absolument pas l'intéresser. Et essayez de regarder un peu quel type de jeu il stream, quelle est sa cible, quel est son segment de marché, etc. Vraiment analyser les différents streamers et leur proposer des jeux, des contenus et votre jeu en adéquation avec avec leur ligne éditoriale. Et pas parce que c'est un streamer avec des millions d'abonnés qu'il faut forcément le prendre, parce que s'il fait que bah, voilà, des jeux d'horreur et que ça c'est pas du tout le type de jeu sur lequel vous travaillez, ça va pas l'intéresser, quoi. À moins que vous ayez vu une vidéo dans laquelle il s'ouvre à dire, ah, bah tiens, j'aimerais bien faire d'autres streams de d'autres jeux. Voilà, sinon ça fera vraiment jeu sponsor, c'est carrément de la pub, donc là vous l'achetez carrément et puis vous le payez un gros chèque et il va le faire un peu de façon forcée, mais ça donne pas forcément une bonne qualité de contenu créé par ce streamer. Donc vraiment regardez quel type de contenu c'est, ciblez bien vos streamers et envoyez-lui un petit mail avec voilà, avec en décrivant le jeu comme il est, les fonctionnalités, le nom du jeu et surtout en incluant vraiment les liens vers le trailer, la page Steam du jeu ou la démo, quelque part vous pourrez les trouver rapidement, pas lui laisser lui le streamer galérer à chercher les liens parce que vous avez mis le jeu, il va pas connaître, donc vous avez pas, il va pas s'amuser à aller chercher sur Steam ou sur GOG ou sur n'importe où votre jeu est présent, donc il faut vraiment lui mâcher le travail à fond pour qu'il a juste avec 2-3 clics accéder à votre jeu, à votre vidéo, à votre trailer et avec des assets, et comme ça il peut facilement avoir accès et streamer votre jeu. Et pour en parler quoi dans ses vidéos, sur ses Twitch, etc. Et puis aussi mettre des assets hein, du jeu, des screenshots, des vidéos comme je disais, mais voilà, ça permet aussi d'agrémenter ses streams, et quand il va parler du jeu, ça permettra de faire des incrustes, des choses comme ça, ou même sur son site ou sur des blogs, de pouvoir en parler un peu plus. Et puis éviter tous les titres un peu accrocheurs, un peu les clickbait sur vos emails en disant ah, j'ai 100 000, enfin je t'envoie dans ce mail sans clé Steam à partager, et qu'en fait finalement c'est des keymailers ou des choses comme ça qui sont derrière, il n'y a pas vraiment les sans-clés. Si vous mettez qu'il y a des clés, donnez vraiment des clés. Donc autant ne pas mettre 100, mais peut-être mettez que voilà, vous lui filez 10 clés Steam pour que il puisse lui tester et en faire profiter sa communauté. Il sera content, mais mettez vraiment les clés. Mais par contre, faites vraiment votre analyse et n'allez pas sur des streamers un peu, comment dire ça, pas trop connus ou qui ont quelques streamers, quelques viewers ou quelques views sur leurs vidéos, parce que ça peut être des fois des revendeurs de clés, ils peuvent profiter de prendre vos clés et les revendre sur des marchés gris. Ça se retrouvera sur G2A ou des choses comme ça. Donc, pour éviter ça, faites vraiment votre sélection avant de contacter ces streamers et soyez franc avec votre message et de vraiment mettre, bah, si vous mettez qu'il y a des clés dedans, faites en sorte qu'il y ait vraiment des clés Steam pour le streamer, quoi, pour qu'il puisse l'utiliser ou le partager avec sa communauté. Et aussi, n'oubliez pas d'indiquer le statut du jeu, hein, est-ce qu'il est en cours de développement, c'est une démo, c'est une release qui arrive bientôt, etc. Et s'il y a un embargo aussi, de bien le préciser, à quelle date l'embargo s'arrête, à quelle date les types de différents embargos vous pouvez avoir aussi, par exemple des embargos sur sur la console, ou des reviews, ou du stream in-game à fond. Donc il y a différents types d'embargos avec des dates un peu différentes, il faut vraiment tout soit au clair pour que la personne qui stream se pose pas 40 milliards de questions et sache quand est-ce qu'il peut parler du jeu et quel est le bon timing pour vous, parce que finalement lui bah, il va parler du jeu, mais si vous lancez le jeu un an après, tout le monde aura oublié. Donc c'est des choses qu'il faut faire peut-être 15 jours avant la sortie, histoire que ça vous fait monter un peu la hype pour dire bah voilà, le jeu là je le stream, donc il sort dans 15 jours, allez le réserver, allez le précommander, ou mettez-le dans le wishlist, ou s'il arrive en early access, mettez-le tout de suite dans le wishlist, etc. Donc c'est important de pouvoir voilà, lui donner les infos nécessaires pour qu'il puisse faire ce contenu de façon la plus adéquate possible pour vous, et que ce soit aussi adéquat pour les biens de sa chaîne aussi, quoi. Et puis voilà, prévoir un peu voilà, faut pas trop le faire à l'arrache non plus, donc il faut un peu anticiper, peut-être un mois à l'avance, avant que la vidéo que vous vouliez qu'il sorte, ça me paraît bien, pour le contacter, déjà établir un premier contact, échanger un peu et voir s'il est OK. Et puis éviter aussi voilà, d'aller perturber peut-être sa communauté sur Discord, s'il y a un Discord ou ailleurs, et de dire hey, machin, tiens, tu devrais tester mon jeu, voilà. Et bon, je pense qu'à part le saouler, ça va rien faire de plus, quoi. Donc il y a un super exemple justement de Raw Fury, un email de Raw Fury qui a été mis de David Martinez pour le jeu Dome Keeper, qui avait justement contacté des streamers. Il y a l'exemple parfait du mail qu'il a envoyé à ses streamers et ses youtubeurs, qui est sur l'article. Donc je mettrai en note de l'émission si vous vous inspirez pour contacter vous aussi sur votre développement de jeu ces influenceurs. Ben, ça peut peut-être vous donner des idées, et puis pourrez avoir peut-être un peu plus de résultats si vous avez déjà testé et que vous n'avez pas eu trop de résultats. Ça peut peut-être vous aider pour la suite de votre projet. Voilà, super, super article en tout cas. Bon, comme je disais, je mettrai le lien en note de l'émission. Il y a plein d'autres choses. Alors après, il y a plein de petits articles. Je ne veux pas, peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais là, il y a un article qui est intéressant sur Unreal Engine aussi, qui parle de Born of Breed, qui est un Paper Mario. Qui a été fait entièrement avec des blueprints. Donc s'il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'on peut vraiment faire un jeu intéressant avec Unreal Engine en n'utilisant que des blueprints et pas du C++, et ben oui, c'est possible, notamment ben, là, avec l'équipe qui a réalisé Born of Breed, Born of Breed, c'est un sort de, voilà, comme je disais, un Paper Mario, hein, pour ceux qui savent, hein, donc c'est des assets 2D dans un univers 2D plat, dans un univers 3D, qui est vraiment bien, bien fait. Donc je vous laisse lire l'article, je vous mettrai aussi le lien en note de l'émission, si vous voulez, c'est une sorte d'RPG, voilà, ça peut vous donner aussi une idée de ce qu'est la puissance de ce que peut faire du blueprint, et souvent on a l'impression qu'on est vite limité, donc là, la preuve, c'est pas le cas, ils ont pu tout faire avec des blueprints. Donc, il y a des choses intéressantes. Sinon quoi, il y a beaucoup d'articles sur Unity, donc il y a Unity qui essaie de pousser à mort, là, il y a Unite 2023 là, qui arrive à grands pas, bientôt, hein, donc c'est Amsterdam du 15 au 16 novembre, c'est le grand rassemblement de Unity qui fait ça, un peu ça, une sorte de keynote un peu à l'Apple pour présenter les nouveautés de son moteur, tout ce qui arrive, un peu les résultats aussi. Et là, je pense que ça va être beau, ça va beaucoup tourner autour de l'IA, la VR aussi, tout ce qui est XR, etc. Et aussi le côté un peu le DOTS, la puissance de calcul et tout. Ils vont essayer de montrer un peu tout ce qu'ils peuvent être capables de faire, les différents outils qu'ils ont rachetés, les différentes technos qu'ils ont développées. Et d'autres, c'est le Data Oriented Technology Stack. Et pour l'occasion, ils ont commencé aussi à déjà préparer un peu le terrain avec tous leurs services qui commencent à être mis à jour. Donc, ils essaient de travailler beaucoup sur l'aspect multiplayer, les serveurs Unity, les jeux multijoueurs, donc avec les composants multijoueurs et tout. Et ils ont lancé un projet en open source. Il y a une démo d'un jeu qui s'appelle Mega City. Donc c'est un action multiplayer. C'est un jeu d'action multijoueur compétitif où c'est une démo en fait qui permet de voir comment ils ont abordé la notion des serveurs multijoueurs, etc., avec Unity, et en utilisant les dernières technos d'Unity, notamment DOT, le nouveau service de multiplayer et de networking, et qui utilise l'Unity Game Services avec le Game Server Hosting, avec du authentification, le voice chat, le matchmaking, etc. Et en plus, là, c'est pour une version qui est compatible. Alors, si je comprends bien, c'est pas du URP encore. C'est pas une version Universal Render Pipeline. C'est plus une version haute définition. Donc, mais c'est voilà, c'est du poum poum poum. Si je ne me trompe pas, il faut. C'est un projet qui est plus compatible. C'est plus du HDRP, donc il faut vraiment, c'est du High Definition Render Pipeline, donc c'est plus la haute qualité pour l'instant. Donc ils veulent faire aussi une version, il y aura une démo bientôt avec l'URP, l'Universal Render Pipeline, qui est un peu plus compatible, hein. La différence entre HDRP, c'est vraiment pour du console next-gen, enfin current-gen, quoi, c'est PS5, Xbox, PC, voilà, si vous voulez faire ça sur du mobile ou sur des machines moins gourmandes, c'est peut-être un peu compliqué avec ce genre de démo de voir un peu comment ça tournerait. Donc ils vont faire comme une version bientôt URP, mais Là, pour l'instant, ça reste, il reste une nécessité d'avoir du HDRP. Donc voilà, le projet est en open source sur GitHub. Je vous mettrai le lien en note de l'émission également. Donc si vous voulez aller jeter un œil, pour voir un peu comment gérer tous ces nouveaux services de matchmaking, de hosting de serveurs avec tout ça. Et bien sûr, c'est tous les services Unity, hein, tous les différents nouveaux services qu'ils ont soit rachetés, soit développés. Donc allez jeter un œil. Si ça vous intéresse aussi et que vous êtes en train de travailler sur un jeu multijoueur en utilisant le moteur d'Unity, ça peut vous intéresser. Ah oui, une chose à savoir aussi, c'est que Unity, les services d'Unity ne sont pas compatibles que sur Unity. Si vous utilisez d'autres moteurs de jeu, notamment Unreal Engine, ça peut marcher aussi. Donc, ils ont essayé d'être assez ouverts là-dessus, de garder l'esprit assez ouvert pour dire, bon, même si vous utilisez d'autres moteurs, d'autres frameworks, d'autres technos, vous pouvez tout de même utiliser les services d'Unity pour faciliter la vie. Donc, ce qui est des fois des choses un peu manquantes, par exemple sur Unreal Engine. Il y a moins de services que sur Unity, et ben vous pouvez facilement mettre en place, il y a la documentation qui est prévue et tout. Bon, ça sera toujours un peu plus compliqué que si vous utilisez Unity, qui tout est imbriqué, tout est intégré, et c'est beaucoup mieux documenté, il y a beaucoup plus de ressources, mais ça ne vous empêche pas, si vous utilisez d'autres moteurs, bah, de pouvoir toujours utiliser ces services de Unity. Voilà, je vous mettrai au note de l'émission. C'est tout pour cette semaine, finalement ça fait un peu plus long que ce que je pensais. Eh bien, n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter, comme d'habitude, coulisses du jeu, coulisses au pluriel, sur YouTube aussi, sur toutes les plateformes de podcast, comme je disais en intro. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye!